L'heure philo. Première heure philo de l'année, une très bonne année à toutes et à tous de la part de toute l'équipe. Henri-Marc Mutel est à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka a choisi les disques, Pauline Laverdure est à la console. Une chance, un bonheur, une ouverture, Alexandre Jolien est ce soir notre invité pour une double actualité. Un livre, Cahier d'insouciance, et un film, presque, co-signé avec Bernard Campan.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Alexandre Jolien.
Bonsoir et bonne année.
Bonne année à vous aussi. Si j'ai bien compris, ces cahiers d'insouciance que vous publiez sont une sorte de journal, un journal à poil, façon puzzle, c'est vous qui l'écrivez. Rien à voir avec une quelconque exhibition, il y a une liberté de parole dans ce texte. Vous vous démasquez, vous nous démasquez, parce que c'est une entreprise universelle. Il n'y a rien de nombriliste en fait à ça.
C'est un soir que j'allais pas très bien, j'étais tenté par des pensées sombres, et j'ai mis entre la fenêtre et mon lit un livre de Shogal Trumpa. Et de là est née l'idée de consigner dans ce livre tout ce qui aide vraiment à aller vers l'insouciance et le détachement. Donc, il y a presque une urgence existentielle à avoir écrit ce livre.
Qu'est-ce que c'est que l'insouciance ?
Ben justement, c'est pas l'indifférence. L'insouciance, c'est peut-être se libérer des passions tristes, d'une subjectivité qui peut peser pour aller vers les autres et pour goûter à l'existence ensemble.
Se libérer peut-être de la peur, qui est une première passion triste.
Moi, je suis travaillé par la peur. J'ai pas eu une enfance des plus faciles. Je crois que je suis entré en philosophie pour essayer d'aller vers la joie inconditionnelle. Mmh. Et la peur, comme la tristesse, c'est du plomb.
Les enfants sont des maîtres en insouciance, en quelque sorte, quand on les voit être.
Oui, Kierkegaard disait que l'innocence, c'est ne rien avoir contre quoi lutter. Et quand je vois mes enfants, il y a cette innocence-là. C'est pour ça que c'est tellement tragique quand on bousille l'innocence d'un enfant. Et finalement, la vie peut nous bousiller. Et justement, l'insouciance, c'est essayer de rejoindre cette innocence où on n'est pas plombé par la peur, la méfiance, le soupçon, l'égoïsme et le narcissisme.
Vos enfants, à vous, Alexandre Jolien, ils meurent plusieurs fois par jour. Non, je dis ça avec un sourire. Parce que vous avez tellement peur pour eux, vous avez peur à chaque instant qu'il leur arrive quelque chose de fatal ou de mauvais.
Au sens propre, moi, je suis hanté par la peur de perdre un proche. Dès qu'on va en forêt, par exemple, au lieu de l'innocence, j'imagine des chiens enragés, des renards contaminants. Et clac, l'innocent. D'ailleurs, mes enfants ne comprennent pas. Ils comprennent beaucoup de choses.
Heureusement qu'ils ne comprennent pas.
Mais ils disent pourquoi on se complique la vie à tel point. Et je dis qu'on n'a pas eu tous ces mêmes bagages pour entrer dans l'existence.
Alors que c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème.
Oui, oui, ça c'est une amie de Mathieu Ricard qui m'a dit un jour, j'étais en plein déménagement, j'étais hyper mal organisé, et elle a lancé, c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. Autrement dit, il y a le tragique de l'existence, et il y a les psychodrames, c'est se compliquer l'existence en plus du contingent de souffrance qui est déjà massif.
Alexandre Jolien, les philosophes vous ont porté secours, hein, ils vous ont même sauvé, ils sont nombreux dans votre panthéon. Cioran, par exemple, dont vous écrivez qu'il vous apaise, vous soulage et vous rassure.
Qu'est-ce que c'est la connaissance ? On démolit quelque chose. Toute connaissance poussée jusqu'au bout peut être dangereuse et malsaine. Parce que au fond, la vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Une entreprise n'est possible que si on, si on a un minimum d'illusions. Autrement, ce n'est pas possible. Mais une amitié non plus. On a tout, c'est net. La lucidité complète, c'est le néant. On peut dire qu'il y a un excès de lucidité qui rend la vie insupportable. Bon, ça, c'est certain. La vie n'est supportable réellement que si on ne tire pas les dernières conséquences.
C'est émouvant toujours d'entendre les philosophes parler comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Cioran ?
C'est dingue comme un type comme ça peut être apaisant. Il est travaillé par l'insomnie, il est grinçant. Et je trouve apaisant parce qu'il décortique la mécanique qui nous fait souffrir et atteindre sa voix. Et quand on pense, comme il écrit bien le français à l'heure où on fait des polémiques identitaires, moi j'adore ce gars venu de Roumanie.
Mais quand il dit que on a un excès de lucidité, vous tendez quand même à ça, hein, la vie serait insupportable. Est-ce qu'on n'est pas là ? Est-ce que ça pourrait correspondre, en tout cas, au film qui va sortir dans quelques jours, dont on va parler tout à l'heure, que vous co-signez avec Bernard Campan, Presque. Presque, ça veut dire qu'il y a toujours une petite distance, un petit décalage, et que finalement, c'est pas mal.
C'est pas mal pour autant qu'on est conscient. Si on n'est pas conscient de ce décalage, on enferme les gens et la vie dans des catégories et on morfle, parce qu'on n'est pas dans la réalité, mais dans la projection. Et le presque, c'est un espace de liberté. Je ne maîtrise pas tout dans la vie, et youpi, pour autant qu'il y a la solidarité, parce que coller seul avec le tragique de l'existence, c'est bonbon.
Mais c'est pas presque une joie, en tout cas, de vous recevoir. C'est tout à fait une joie à part entière, mon cher Alexandre. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the
good.
vibration, décidément, ce soir avec les Beach Boys.
Moi, si je pouvais aller coller mes fesses sur une île déserte, j'hésiterais pas une seconde.
Et tu veux aller croupir sur une île déserte, t'es pas heureux?
Je viens d'envoyer un handicapé dans le fossé. J'arrive.
Vous faites quoi dans la vie?
En général, quand je le dis, ça jette un froid.
Moi, j'ai rien besoin de dire pour que ça jette un froid. Vous êtes complètement...
Qu'est-ce que vous foutez là?
Je voulais faire une expérience métaphysique.
Je vais vous larguer comme ça en pleine nature?
Mais y a pas de problème. Tout va bien. Je vous dérangerai plus. On est tous embarqués comme dans un train. On ne sait pas où on va. On ignore tout de la destination. Mais on est à bord.
C'est votre frère?
Non. C'est mon ami.
Moi, le regard d'autrui, je m'en rends.
Moi, je trouve que t'as l'air... normal. Ça se voit pas.
Presque.
Extrait donc de Presque, le film dont vous êtes co-réalisateur avec Bernard Campan et qui sort le 26 janvier prochain. Il faut y aller parce que on est à la fois ému, bouleversé, on pleure. On sourit, on rit, on est... ça dope aussi énormément. Enfin, moi, en tout cas, je suis sortie de là sacrément dopée parce que ça va droit aux choses. C'est votre premier film, Alexandre Jolien?
Oui, c'est un jour le dernier.
Ah, ça, vous savez pas. C'est votre premier rôle aussi.
Oui, grâce à Bernard Campan qui m'a fait confiance et qui m'a presque poussé dans cette aventure. Oui.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire l'acteur?
Bien sûr, parce que le regard d'autrui et le risque de réduction ou handicap péter à la gueule, si je puis dire. Et de nouveau, main dans la main, grâce à Bernard, j'ai pu franchir ce pas.
Alors, vous interprétez dans le film le rôle d'un vendeur de légumes bio. Vous vous déplacez à vélo. Ça se passe à Lausanne, qui est d'ailleurs la ville, une ville qui vous est chère. Vous y vivez. Vous vous appelez Igor dans le film. Vous êtes féru de philo. Vous avez plein de bouquins chez vous. Et Bernard Campan, lui, il est croque-mort. Évidemment, c'est quelqu'un de très différent que celui que vous interprétez dans le film.
C'est rigolo. C'est un clin d'œil au quotidien parce qu'on a un ami
croque-mort.
Croque-mort. Et on voulait vraiment montrer deux paumés qui avance vers la joie inconditionnelle dans une sobriété la plus complète et essayer de voir ce qui sauve un être humain.
Mais dans le film, vous le faites changer, en fait, et sacrément.
Le contact de l'autre, le fait de se ramasser en plein gueule tragique, ça peut endormir, c'est un croque-mort dans le film où, sans jeu de mots, il est mort-vivant, il vit sa vie sous pilotage automatique et la mort, sans jeu de mots facile, elle peut nous réveiller parce qu'il y a une urgence à aller vers l'essentiel.
Et vous, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez une grande curiosité pour l'autre, pour les choses, pour ce qu'il fait. Vous lui posez plein de questions. Vous vous intéressez véritablement à lui.
Je crois qu'il y a deux trucs essentiels dans la vie. C'est, comme on disait, le détachement et puis, paradoxalement, le goût de l'autre. Et grâce à Bernard, grâce à plein de monde, grâce à vous d'ailleurs, j'avance peu à peu vers la confiance.
Et nous, on avance grâce à vous aussi, je peux vous le dire. Il y a une scène, Alexandre Jolien, dont je me demande si elle a été délicate à tourner pour vous, sans entrer dans les détails de l'histoire, mais à un moment donné, vous vous retrouvez au lit avec une femme, pour une scène de sexe, on peut dire très tendre, mais c'est quand même une scène de sexe. Quand on sait que vous passez votre temps à vous battre avec les tourments de la chair, comment est-ce qu'on aborde ce genre de...
Alors, c'était pas facile, et grâce à la comédienne Marie Bénédicte, c'était un moment très cathartique, parce qu'on a beaucoup parlé, c'était un moyen de montrer qu'il n'y a pas une spiritualité désincarnée, c'est-à-dire dire oui au monde, c'est aimer l'autre et c'est aimer le corps. Et il y avait peut-être une idée militante, parce qu'on a l'habitude de montrer des corps parfaits, nickel, et ça met des écrasants standards qui laissent beaucoup de monde sur la touche. Et il y a la, la terrible sexualité qui est prédatrice, mais il y a l'amour qui peut réconcilier avec le corps, avec un corps qui est soumis au regard et que un regard qui peut broyer une existence.
Et vous diriez qu'avec le temps, avec les années, grâce aussi à votre réflexion, à votre travail de philosophe, Alexandre Jolien, vous vous êtes en quelque sorte réconcilié, vous êtes sur la piste d'une réconciliation avec ce corps que vous n'aimez pas, que vous trouvez laid, mal aimable, qui est un fardeau.
C'est rigolo, mes enfants ne comprennent pas pourquoi je méprise autant ce corps. Et j'ai tendance à aller de leur côté vers la confiance. Et dès que je sors de la maison, tac, il y a un regard qui rappelle, oui, tu as peut-être raison, ce corps est différent. Et c'est ça qui est douloureux. Les enfants, ma femme, mes amis, plein de monde me réconcilient et il y a le choc du regard d'autrui. Mais en même temps, on ne peut pas et peut-être ne faut-il pas se blinder et rester ouvert. Oui, je suis fragile à ça et c'est un point de vigilance. Et un lieu de liberté aussi.
Quelquefois, j'envie votre bienveillance et votre douceur, parce que alors que le regard que les autres portent sur vous n'est pas forcément formidable, ça peut être un poison, vous venez de le dire, vous en prenez plein la figure quelquefois, parce qu'on vous tutoie, parce qu'on pense que vous êtes saoul, parce que dans un taxi, on manque de vous débarquer, parce qu'on vous offre un bonbon à une caisse de supermarché, comme si vous étiez un enfant, parce que et d'ailleurs dans le film, à un moment donné, vous déjeunez avec Bernard Campan, donc vous êtes dans une station d'autoroute et le serveur s'adresse à Campan pour savoir ce que vous voulez. Enfin, c'est des situations que vous vivez sans arrêt. Et vous dites, vous continuez à garder le sourire et à dire merci.
Grâce à la philosophie et à la spiritualité, si je méditais pas tous les jours, si j'avais pas un entourage bienveillant, des amis dans le bien, je crois qu'il y aurait de quoi se tirer une balle parce que c'est un marathon. Mmh. Et je pense, en disant ça, à tous ceux qui n'ont pas ce lien, cette chance. Et c'est pour ça, ce qui me fait m'engager, c'est ce souci de l'autre. Essayer de bâtir une société plus bienveillante.
Pierre Hadot, il est spécialiste de la philosophie antique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre.
Les stoïciens, d'ailleurs, opposaient très clairement le discours philosophique et la philosophie elle-même. Car la philosophie était pour eux un acte unique, une attitude quotidienne, constante. Non pas la sagesse parfaite, mais un exercice en vue de la sagesse, exercice dans lequel on pratiquait concrètement la logique en pensant la réalité telle qu'elle est dans la vie de tous les jours, la morale en agissant au service des autres et la physique en vivant consciemment comme une partie du cosmos. Le discours philosophique, au contraire, correspondait pour les stoïciens seulement aux nécessités de l'enseignement, c'est-à-dire à l'exposé discursif, théorique, pédagogique, exposer des raisons que l'on a de vivre de cette manière. Et dans les autres écoles, et notamment chez Platon et chez Aristote, on retrouve implicitement une distinction de ce genre pour la bonne raison que, d'une manière générale, dans l'Antiquité, le philosophe se considère comme philosophe non pas parce qu'il développe un discours philosophique, mais parce qu'il vit philosophiquement.
Vous venez d'écouter les propos de Pierre Hadot, mon cher Alexandre Jolien, tout sourire. Ça vous ravit.
Mais carrément les frissons, parce que je me disais, j'ai pas connu mes grands-papas, j'aurais adoré avoir Pierre Hadot au coin du feu. Et c'est tellement vrai, la philosophie, c'est pas déjà réussi pour les Grecs, c'est une manière de vivre, c'est des exercices, une assise, et c'est applicable au quotidien. Et surtout face à quelqu'un qui nous regarde de haut, et non pas pour se résigner, mais pour adhérer à la vie et avancer loin des passions tristes.
Une manière de vivre, on peut aussi dire un art de vivre, non ?
Oui, c'est se lever le matin en sculptant son existence, comme disait Plotin, et ça donne un sens et ça libère.
Quand vous parlez à vos enfants, Alexandre Jolien, à la maison, par exemple, autour d'une table, vous leur dites, vous citez, comme disait Platon, comme disait Plotin, comme disait Kierkegaard, comme disait Spinoza. Vous leur dites ça?
Oui, j'étais ému et un peu déçu. Mon fils m'a écrit un email pour Nouvel An et j'aurais pu le signer parce qu'il citait la grande santé, la liberté des patientistes. Et j'ai dit, attention, il faut donner un exemple, mais pas faire des copier-coller, parce que la philosophie, c'est apprendre à devenir soi-même, c'est pas...
Donc il se prend un coup de pied dans le derrière s'il veut trop vous ressembler. Oui. C'est lui qui veut devenir instituteur ?
Oui, j'adore, et c'est rigolo, parce que j'aime pas l'école, vu mon parcours, et il a transformé par goût sa chambre, salle de classe, il y a un tableau noir, un rétroprojecteur, et sa passion, c'est l'enseignement, transmettre, aider, et je suis hyper touché de voir ça.
Vous avez trois enfants, Alexandre, c'est ça?
Oui, trois enfants qui m'ont fait père, Victorine, Céleste et Augustin, et qui m'apprennent l'amour inconditionnel. L'autre jour, j'étais un peu fatigué, j'ai dit à ma fille, va chercher un yogourt pour l'handicapé, et elle m'a dit, mais t'es pas handicapé. Et ça, mes enfants, comme ma femme, me libèrent à chaque instant.
Mais vous êtes l'être aimé, vous êtes leur papa?
Mais au-delà du rôle, j'aimerais, il y a trois valeurs qu'on essaie de les transmettre. Liberté intérieure, justement, curiosité pour les choses de l'esprit et puis la générosité. Le reste, on leur dit, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez.
Débrouillez-vous.
Vous êtes libre de devenir qui vous êtes, comme disait Gerfagnon.
Dans votre livre « Cahier d'insouciance », vous faites un parallèle entre Diogène le cynique et Nietzsche. Les deux, écrivez-vous, montrent bien qu'il est possible de concilier amor fati et coup de marteau. Est-ce qu'on peut dire oui et aussi se rebeller? On peut faire les deux?
Merci, parce que le cœur du livre, c'est ne pas tomber dans une résignation, dans un fatalisme, être un âne, comme dirait Nietzsche, qui dit « IA », il y a un jeu de mots en allemand entre « IA », le « oui » et le cri de l'âne, et se rebeller, mais sans amertume. C'est un peu le boulot de ma vie, ne pas se résigner. D'ailleurs, quand je suis trop dans le « merci, excusez-moi », mes enfants me disent « joue pas à Igor ». Parce que dans le film, Igor, il a honte d'être lui-même. Et la rébellion et la mort fatigue, c'est deux jambes qui nous font avancer, je pense.
Qu'est-ce que Nietzsche vous a appris, vous a apporté?
C'est rigolo, on était dormir dans la maison qu'il occupait à Sils Maria. Et vraiment, j'ai fermé la porte. Je me suis déshabillé entièrement.
Ça, c'est pas permis, hein.
Et c'est interdit. Et mon fils veillait au premier étage pour voir qu'il y avait personne. J'avais fermé à double tour. Et j'ai dit, Nietzsche, merci. Ça paraît con, ça paraît d'un pathos. Mais lui qui a connu les affres de la maladie, qui nous apprend la grande santé, le dire oui, et justement pas le gnangnang, pas le fleur bleue, moi il me réconcilie avec le corps. Je sais que le fréquenter trop longtemps, ça peut me plomber, en tout cas moi. Mais il m'empêche de m'installer dans des fausses certitudes. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je parle comme s'il était vrai, le gaillard.
Je pense qu'il serait très content d'être à côté de vous et de boire un coup avec vous. Vous le citez à plusieurs reprises dans votre livre, et il y a notamment cette citation-là, « Nous sommes des bourgeons, le produit d'un arbre, c'est tout l'arbre qui permet l'épanouissement d'une société ».
Oui, on le présente souvent comme un individualiste, mais j'aime beaucoup ce passage posthume du bourgeon, à savoir, on est le fruit d'un tout pour venir ici. Il y a eu un taxi plein de sourires, il y a une femme qui m'aime, il y a vous qui me recevez.
Il y a tous les auditeurs qui sont en train de vous écouter.
et on est plein de bourgeons. Et quand le bourgeon veut faire bande à part, si je puis dire, c'est là qu'intervient la fatigue, la tristesse due au narcissisme. Il y a plein d'autres tristesses, mais il y a une tristesse liée à l'auto-isolement.
C'est donc aussi une affaire sociale. C'est une affaire de place qu'on a dans la société, de regard qu'on porte sur vous.
Moi, personnellement, la société peut m'épuiser à certains moments quand je dois jouer un rôle. Justement, faire le gars qui va bien, qui assume tout. Et il y a une grande mode aujourd'hui des burn-out. Et il y a l'expression horrible. Il ou elle s'est fait un burn-out. C'est oublier le bourgeon. C'est infliger la double peine. Tu vas mal et c'est ta faute. Tu t'es créé. C'est pour ça que pour moi, la joie a une dimension collective. On est co-créateur avec les autres de sa joie. Il faut vraiment laisser personne sur la touche.
Et d'ailleurs, c'est Nietzsche aussi qui apprend ça, qui dit que la première des choses le matin qu'on peut avoir, la première pensée qu'on peut avoir, c'est à qui est-ce que je vais pouvoir faire plaisir ?
C'est magnifique. Dans Humain trop humain, il dit qu'au lieu des rites et des prières, on pourrait vraiment se demander à qui on peut faire plaisir ce jour-là. Et voilà un truc, j'allais dire, tout con, concret, mais qui peut changer l'orientation de la journée.
Et distiller de la joie, c'est aussi Spinoza, qui est aussi un philosophe cher à votre cœur.
Oui, c'est drôle. Pour moi, les philosophes, c'est des copains. J'ai pas une approche intellectuelle, j'ai pas voulu les noms de bas de page, mais Spinoza, vraiment, pour moi, la question de spinoziste, par excellence, c'est qu'est-ce qui nous met en joie? Et c'est vraiment comprendre les mécanismes qui peuvent nous enfermer dans l'aliénation et la joie comme moteur plus que comme injonction.
Il pleut des hommes, c'est un titre, le titre d'une chanson de Léonie Pernest, un extrait de son deuxième album, Le Cirque de Consolation. Et c'est une chanson que Djoubaka a choisie, rien que pour vous, Alexandre Jolien.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Attention.
Alexandre Jolien est ce soir notre invité. Il publie Cahier d'insouciance chez Gallimard et on le verra très vite, très bientôt, le 26 janvier, dans quelques jours donc, au cinéma, presque, dans le film Presque. C'est un film qu'il co-signe avec Bernard Campan ou que Bernard Campan co-signe avec vous, je ne sais pas comment il faut dire. Enfin, en tout cas, vous êtes tous les deux liés et dans l'écriture et dans la réalisation et dans le fait d'être tous les deux acteurs de ce film. On dit que le génie, c'est de détruire sa part de comédie. En fait, une des clés de la spiritualité, est-ce que ça consiste pas à se démasquer?
Oui, exactement. C'est ce que dit, en tout cas, Shogyal Trungpa.
Que vous citez à plusieurs reprises dans Cahier d'insouciance.
C'est un maître tibétain. Se démasquer, c'est cesser de jouer un rôle, ne pas avoir peur de ce qu'on trouve en nous, des fantômes, mais avoir l'esprit aiguisé pour pas tomber dans l'autocomplaisance.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, Alexandre Jolien, où vous êtes vous-même enfermé dans ce rôle de, finalement, d'intellectuel?
Absolument. Et d'où la question du corps, d'où la question du fatalisme, d'où la question de la rébellion et de l'engagement. C'est vrai que je me suis coupé du corps, des autres à un certain moment, et que justement se démasquer, ça fait peur, mais c'est la bonne nouvelle, c'est que à chaque moment on peut se convertir et se reconvertir, j'allais dire, vers plus d'authenticité.
Vous aimez bien aussi vivre des aventures. Vous êtes parti, je ne sais pas il y a combien de temps, il y a 3-4 ans, je ne sais plus, le temps passe si vite.
En Corée du Sud.
Vous êtes parti vivre en Corée du Sud avec votre famille, donc ce n'était pas forcément évident. Pendant combien de temps?
Pendant 3 ans. 3 ans. On a suivi à l'école d'un maître jésuite qui pratiquait le zen, et c'était hyper décapant, justement, la conversion. C'est du pur sucré.
Alors, je me souviens d'une séance, d'ailleurs, de vos premières séances de méditation que vous aviez racontées, où c'était déjà très très dur pour le corps, et puis de toute façon aussi pour l'esprit. Et à un moment donné, dans le film Presque, vous méditez. C'est une pratique que vous exercez couramment. Mais dans Cahier d'insouciance, vous dites aussi que vous prenez quand même un peu de distance avec ça.
Oui, je crois qu'on en fait une baguette magique, une recette miracle. Et on parlait tout à l'heure du burn-out, il ne s'agit pas d'inviter les gens à l'autorégulation et dire « méditer un bon coup » parce qu'il y a des conditions extérieures qui sont oppressantes et qu'on ne saurait nier. Mais pour autant, avant de venir, j'ai médité une heure. C'est une respiration, pour moi, c'est vital. Pas parce que ça va me guérir de quoi que ce soit, mais parce que je descends dans une intériorité, sinon je serais foutu. Mais c'est pas une voie toute tracée pour... c'est pas la panacée, c'est... Ce contre quoi je m'inscris, c'est cette récupération individualisme de la méditation.
Et vous méditez dans le silence?
Oui, c'est difficile parce qu'il y a la tempête mentale qui fait rage, mais justement, être peinard et regarder la tempête mentale, regarder ces bulles naître et disparaître, c'est une voie.
Ça veut dire qu'on met tout à distance, là, pour le coup.
On laisse ce qui doit apparaître.
On se moque de tout. Rien à battre, comme vous dites. Couldn't care less.
Ça, c'est un truc que je me suis fait tatouer. Couldn't care less. D'où les cahiers d'insouciance aussi. C'est-à-dire, de nouveau, pas l'indifférence. Mais finalement, à quoi bon se tracasser du regard d'autrui? Je dis ça, mais c'est dur d'appliquer.
Oui, mais est-ce que ce vers quoi on peut tendre, c'est de se mettre en mouvement pour accomplir quelque chose, mais sans se soucier du résultat, au fond?
Absolument, c'est très zen. Vivre sans but ni esprit de profit, comme on dit, c'est-à-dire être dans la détermination, dans la cesse, mais pas avoir les yeux braqués sur un résultat. Oui, exactement.
Pas d'injonction, pas de volontarisme, ça non plus vous n'aimez pas.
Le volontarisme, c'est très accusant. D'ailleurs, j'écoute ce moment comme beaucoup des politiciens, il y a souvent, quand on veut, on peut. Ben, malheureusement ou heureusement, c'est pas comme ça. quand ça culpabilise les aides de dire « Ouais, t'es dans la béchamel, mais si tu veux, tu peux t'en sortir. » Il faut aussi réhabiliter le lien aux autres, la solidarité et la chance aussi.
Et on peut s'établir en soi quand on est dans la béchamel. Ça, je reprends des propos de Saint-Benoît que vous reprenez vous-même.
Oui.
Je n'ai fait que vous copier.
Oui.
Qu'est-ce que c'est s'établir en soi? C'est reconnaître et définir peut-être aussi ses faiblesses. D'ailleurs, ça rappelle un livre que vous avez publié il y a quelques années déjà, Éloge de la faiblesse.
S'établir en soi, c'est tâcher de ne plus vivre sous mode de pilotage automatique. Et l'exercice de la méditation, c'est vraiment faire ça. Regarder qu'on est ému par plein de déterminisme et descendre au fond du fond. Comme disait Maître Eckhart.
Tsongtsang Rinpoche, Rinpoche, ça veut dire en fait, ça signifie... Le précieux, et ça s'applique aux sages?
Oui, j'aime bien ce titre et j'aime surtout trop pas, même si il faut faire des idoles de personnes et chacun a sa part d'ombre. Et justement, la Nietzsche est là pour nous rappeler, attention, pas d'arrière-monde, pas d'idéalisation, mais d'un trompa. Rinpoche, il y a du trésor, notamment l'idée de se donner aux autres, faire passer les autres avant soi.
Tsongtsang Rinpoche.
Buddhist behavior should never be fallen into extreme.
Le comportement bouddhiste ne devrait jamais vous pousser à tomber dans un extrême.
Because, you know, remember the famous, you know, slogan Guru Rinpoche said, your view should be as vast as sky and your action should be as subtle as flower.
Car vous vous rappelez du fameux slogan de Guru Rinpoche, votre vue devrait être aussi vaste que l'espace, mais votre action aussi raffinée que des grains de farine.
Someone who understands the shunyata will be really, really careful in doing any of harmful act.
Donc quelqu'un qui comprend vraiment shunyata fera extrêmement attention avant de commettre le moindre acte négatif.
Une action aussi raffinée que des grains de farine.
Là aussi, ça me donne des frissons de Tsongtsang. Alors ça, c'est un autre Rinpoche. Il y a beaucoup d'humour. Justement, le premier pas vers la sagesse, nous dit-il, c'est de voir les choses. C'est pas tant la morale, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est de repérer la réalité. Il parlait du shunyata dans l'enregistrement, toute vacuité, et on veut se fixer derrière des étiquettes par peur. Moi, le premier, je me fiche, et la shunyata, l'emptiness, la vacuité, c'est laisser être.
L'humour, Alexandre Jolien, c'est essentiel aussi. Moi, je me souviens de la façon... Je crois que c'est dans Éloge de la faiblesse, mais vous me corrigerez si c'est pas ça. Mais enfin, dans un de vos livres, vous racontez à un moment donné une bataille, un combat que vous menez avec une boîte de raviolis que vous n'arrivez pas à ouvrir. Vous crevez de faim, vous êtes seul à la maison. Personne ne peut vous aider à ouvrir cette boîte et vous êtes là face à elle. Et là, tout à coup, vous éclatez de rire presque tellement la situation est à la fois dramatique mais ubuesque.
Oui, l'autodérision, il y a la moquerie qui est de l'ordre de la passion triste et qui est délétère, mais l'humour se fend de la gueule devant une boîte de ravioli. Enfin, j'étais dans une complète impuissance. Je voyais monter l'envie de maudire la vie et voilà, rire un bon coup.
Il y a une phrase énigmatique sur laquelle je voudrais que vous nous éclairiez, mon cher Alexandre. C'est le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi je l'appelle Bouddha. Qu'est-ce que ça
c'est
signifie
phrase,
On peut dire aussi Alexandre n'est pas Alexandre, c'est pourquoi je m'appelle Alexandre.
C'est un mantra issu du Sutra du Diamant et qui m'a beaucoup aidé. Et c'est un refrain qui vient employé pour beaucoup de choses. On pourrait résumer le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi... Je l'appelle le Bouddha et moi, pour comprendre, j'essaie d'appliquer dans la vie quotidienne. Et quand je dis ma femme n'est pas ma femme, ça veut dire ma femme n'est pas toutes les projections, les a priori, les préjugés que je peux fabriquer sur cette personne. Et sachant ça, je peux l'appeler ma femme. Il ne s'agit pas de décoller du réel, mais savoir... que les mots, que nos perceptions peuvent figer l'être. Et c'est un truc que je fais à tout bout de champ. Le handicap n'est pas le handicap. C'est pourquoi je l'appelle le handicap. Et c'est ça qui est génial. On retourne à la réalité. Il ne s'agit pas de la raconter, mais de fluidifier pour revenir plus vivant au monde.
Et vous pourriez dire la même chose de Jésus ?
Absolument. Peut-être que d'aucuns me mettraient à l'index, mais je pense, et certains mystiques, quand Maître Eckhart prit dans les serments en disant « Dieu, libère-moi de Dieu », en gros, il nous dit de se libérer des projections qui est un blasphème, à mon avis, d'avoir des a priori sur l'autre, sur Dieu, sur la réalité.
Le handicap, au fond, vous a contraint à vous attaquer à l'essentiel, ce que vous n'auriez peut-être pas fait autrement.
Oui.
Sans le handicap, il n'y aurait pas eu de philosophie non plus, même si sans philosophie, il n'y aurait pas eu de survie.
Ma femme me dit que sans le handicap, j'aurais eu tout pour finir vieux con. Et je lui dis toujours que c'est pas fini. Mais c'est vrai que le handicap m'a forcé à descendre dans l'intériorité, à faire confiance. Et aussi mes compagnons d'infortune à l'Institut.
À l'Institut où vous avez vécu donc vos premières années jusqu'à l'âge de 17 ans.
Ils m'ont appris... la fraternité. Je pense à eux quand je vis tout ce qui est à vivre.
Qu'est-ce qui vous a fait emporter le morceau auprès de votre femme dont vous parlez assez souvent, Corinne ?
Je pense que, pour le coup, c'est quelqu'un qui m'apprend ce que c'est que l'amour inconditionnel. Ça me fait tellement peur, d'ailleurs, en le disant, parce qu'il n'y a aucun... demande de renvoi d'ascenseur, aucun calcul, c'est un amour qui me porte.
Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question, Alexandre Jolien. Je vous ai demandé qu'est-ce qui a fait que vous avez remporté le morceau, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'elle vous a choisi.
Alors, j'aurais pas la prétention de savoir.
Vous
cité Tsongkhsa Rinpoche dans l'extrait tout à l'heure, il dit qu'en amour, il y a deux sortes de malentendus. Les malentendus malheureux, qui occasionne la tristesse et les malentendus heureux. Je crois que dans un coup de foudre, dans un amour, il y a quand même une sacrée part qui nous échappe. Et qu'est-ce qui fait qu'on remporte le morceau ? C'est peut-être un malentendu, mais c'est ça qui est beau.
Ce sont des révolutions successives, au fond, que vous vivez. Est-ce que vous diriez, Alexandre Jolien, que vous êtes un révolutionnaire ?
Oui, et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été là depuis le début.
Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer par le biais de Jean-Claude Guibaud, qui lui-même vous éditait aux éditions du Seuil. C'est comme ça que je vous ai rencontré la première fois, dans un petit bureau au Seuil, et il y a des années de ça.
Ça me touche énormément, cette attention, cette bienveillance. Et je dirais, je suis pas le même qu'il y a 20 ans et presque je me contredis tous les jours. Ce qui est constant, c'est peut-être la tentative d'aller vers la joie inconditionnelle et de ne maltraiter personne. Ça paraît basique, mais c'est deux fondamentaux qui m'ont été légués par mes compagnons d'infortune à l'Institut.
Cat Power sur France Inter.
peace. Praise the Lord.
Alexandre Jolien, dans le film Presque, on vous voit donc livrer encore une fois des légumes bio aux uns et aux autres sur votre vélo et vous avez un casque sur la tête, un casque orange. Il se trouve que ce casque, c'est le vôtre, je pense, hein, oui. Parce que vous en avez un comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez bien écouter dans votre casque quand vous allez vous balader ?
Alors, je ne peux plus lire des livres et je dois, pour être au courant, lire beaucoup de philosophie. Il y a pas mal de philosophie en anglais, donc je me suis imposé comme règle d'écouter une heure d'anglais par jour.
Moi qui pensais que vous écoutiez de la musique, en fait non.
Non, des fois de la techno pour vider la tête, et ça c'est aussi une honte quand un homme, oui, on me demande qu'est-ce que tu écoutes.
Pourquoi
vous
une
vous
honte
écoutez, et je dis du classique, Chopin, Montaigne. Montaigne, j'allais Mozart, alors que je me vide la tête avec de la techno.
Les vrais philosophes sont comme les éléphants qui, en marchant, ne posent jamais le second pied à terre, que le premier ne soit bien affermi. Mmh. C'est un auteur, Bernard Le Bovier de Fontenelle, que je dois dire je ne connaissais pas, et que vous citez dans vos cahiers d'insouciance.
Exactement, et ça rappelle Suzuki qui dit qu'il faut avancer à pas d'éléphant, c'est-à-dire bien assurer le pas avant de passer à l'autre. Et dans un horizon où on vit dans la précipitation, j'aime bien l'idée d'un éléphant.
Vous pensez que cette période que nous vivons, je ne sais pas exactement
d'ailleurs,
comment...
D'ailleurs, j'en ai tatoué un sur les fesses.
Alors, recommence, parce que là, je te parlais dessus. D'ailleurs,
j'en ai tatoué un sur les fesses, l'éléphant, qui est l'image du calme mental dans le bouddhisme. Comme ça, on aura tout dit.
Je ne sais pas comment vous vivez cette drôle de période hein, que nous vivons tous ici. En tout cas, en France, on la vit d'une certaine manière, quelquefois un peu bousculée, surtout en ce moment. En Suisse, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce Covid vous inspire quelle réflexion ? Et nos réactions vous inspirent quoi ?
J'ai très peur du Covid, mais j'ai encore plus peur, mais infiniment plus, de l'individualisme et de l'agressivité. Ce qui m'étonne et me chagrine, c'est on a le droit d'être pas d'accord. C'est d'ailleurs bien en démocratie, mais qu'on considère celui qui pense différemment comme un adversaire, voire comme un ennemi, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi on en était là. Alors maintenant, c'est la santé, ça touche à l'intime, ou à l'existence, à une question de survie. Je comprends que ça soit impactant, mais justement, on est tous sur le même bateau et la grande question, c'est comment traverser cette tempête sans se tirer dans les pattes.
Et vous croyez que c'est possible ?
J'espère, et vraiment, j'espère.
Bon, vous espérez avec les deux mains jointes.
Mais pas seulement, comment faire concrètement pour ne pas être dans le conflit, pas juger l'autre et en même temps avoir le courage de dire ce qu'on pense.
En tout cas, vous l'avez, le courage de dire ce que vous pensez. Non ?
Pas tout à fait. Il y a plein de trucs que
presque.
Presque, oui.
Presque. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, mon cher Alexandre Jolien. Il y a donc ces Cahiers d'insouciance, publiés chez Gallimard, et le film, Presque, avec Bernard Campan, de Bernard Campan, avec tous les deux qui jouaient, qui sort en salle le 26 janvier prochain. Donc, plus que 17 jours à attendre. Merci beaucoup, Alexandre Jolien.
Merci et bonne année.